Bien, nous allons parler d'un autre sujet, si vous le voulez bien, un sujet qui déchaîne évidemment les passions depuis 15 jours, hein, vous l'avez suivi, l'affaire Pierre Palmade, évidemment, incontournable. Alors je voudrais commencer avec déjà un petit billet, on va dire, d'humeur d'un certain Gaspard Proust. Que vous connaissez bien sûr.
Bonsoir à tous, on commence à savoir un peu plus sur l'accident de voiture de l'humoriste meurtrier, sadique itinérant, revendeur de vaccins, ARN messager périmé, Pierre Palmade. Toxicomanie, orgie sexuelle, conduite en état de défonce, trafic de pangolins, implication dans la mort d'Elvis, écriture de chansons pour Joule. Mais qui était vraiment Pierre Palmade? Nous allons en parler pendant une heure, enfin la matinée, bref, la journée, Inch'Allah, pendant trois mois, avec nos experts. Jean-Michel, ancien cocaïnomane, reconverti en loueur pédalo au bassin de la Villette. Bernard Dupont, moniteur d'auto-école, spécialisé dans la conduite bourrée en ligne droite. Et enfin, le sexologue, addictologue, proctologue, vidéaste et président de l'association Pourquoi on nous cache que la Terre est plate, Carl Zéro. Nous aurons également au téléphone le témoignage de Popek qui nous révélera être le véritable auteur du sketch Le Scrabble, ainsi que Francis Lalanne qui nous parlera du projet désormais avorté du duo avec Palmade qui était prévu à Wembley en première partie du concert de Beyoncé.
Voilà, donc ça c'était...
Il est bon là, j'ai bien dit là, parce qu'il est pas...
Gaspard Proust, il était particulièrement en jambes. Il résumait assez la situation. Alors, on va être clair, 700 accidents par an sont provoqués par des consommateurs de drogue. Alors c'est celui dramatique provoqué par Pierre Palmade, bien sûr, qui était en train peut-être de réveiller les consciences. Alors oui, on en fait des caisses sur lui, hein, sur cet accident depuis 15 jours. Mais est-ce que les médias en font trop ou pas? Vous allez répondre à la question. Alors, un accident, une star, de la cocaïne, des personnes dans le coma, une femme enceinte qui perd son futur bébé, deux passagers, un connu des services de police pour trafic de drogue, l'autre sans papier, avec en plus une enquête ouverte pour détention possible, hein, résumé d'images pédopornographiques. Bref, on a un roman sur cet accident au départ qui n'était qu'un accident et qui est devenu une affaire nationale, une affaire d'État et peut-être internationale dans pas longtemps. Alors, est-ce qu'on en fait trop sur le sujet Palmade ou pas? Ou est-ce que vous dites oui, c'est bien d'en parler, ça va effectivement peut-être réveiller tout ça? Et puis l'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on n'est pas non plus un petit peu trop en train de rentrer dans la vie privée de Pierre Palmade?
On savait tous que ce garçon avait une vie, on va dire, dissolue.
Ah, il était le premier à le reconnaître.
Oui. Mais oui, donc après c'est l'horreur, c'est la fatalité, c'est un accident affreux, quoi. Et maintenant, depuis une semaine, comme dit Gaspard, c'est l'acharnement, quoi. Il n'a plus rien de bon, ce garçon, alors qu'il reste... C'est affreux au départ ce qui s'est passé et la récupération qui parle dans tous les sens.
Oui, oui. Je trouve ça très maladroit parce qu'au fond, personnellement, je m'en contrefous que ce soit Pierre Palmade. Complètement. C'est un garçon qui a des problèmes, qui réveille souvent les flics depuis quelques années. Chose étonnante, on lui a laissé quand même son permis de conduire. Ça, on pourrait peut-être un peu discuter de ça. Bon, il a 2-3 gigolos autour de lui qui manifestement n'ont pas des papiers en règle. Ça en rajoute un peu. Bon,
mais c'est sa vie, quoi.
Moi, je m'en fous complètement. Par contre, ce que je souhaite, c'est que la justice passe et que voilà.
Gilles, comment tu as vécu un peu tout ce flot qui est arrivé?
Ben, tout est bien triste, mais effectivement, bon, parce que c'est un peu une personnalité, ben, on parle de lui matin, midi et soir, depuis 10-15 jours, on n'entend que ça. Pour moi, c'est trop. Donc, tout à l'heure, on évoquait les réseaux sociaux, mais là, au niveau de la presse télévisée ou écrite, on parle que de ça. Quoi.
Effectivement, c'est un déchaînement, oui, trop.
On parle assez peu des victimes. Après, lui, ben voilà, parce que c'est Pierre Palmade, ben ils en profitent pour se décharger. Enfin, je sais pas. Moi, je dis on en parle trop. Et puis, il faut laisser faire la justice.
Oui.
Et puis, j'espère qu'elle fera le boulot normalement.
Ben, le problème, tu voulais peut-être dire quelque chose.
Je dis, il faut pas être surpris. Hein, c'est la domination de Hanouna et CNews qui fait que, voilà, c'est l'actualité. Je suis comme Jean-Paul, hein, ça... J'ai reçu la nouvelle, parce qu'on peut pas l'éviter, mais elle me passionne pas plus au-delà de la tragique issue de l'accident. Mais le reste, c'est un fait divers. Hein.
Alors, ça, effectivement, il y a le tribunal populaire qui veut impérativement, et évidemment, le mettre donc sous écrou, ce qu'on peut comprendre, hein, bien sûr. Le seul problème, c'est que visiblement, puisque moi j'ai quand même suivi un peu ça depuis le début, de par ma position, on se rend compte d'une chose, c'est que sur les 700 accidents qui sont donc dus à des consommateurs de drogue, il y en a très peu qui vont en prison. Pour la majeure partie de gens qui ont des accidents et même mortels, on se retrouve avec des personnalités, des personnes qui ont 2 ans avec sursis et point barre. Donc est-ce que là on ne pourrait pas effectivement penser que ça serait bien de faire un vrai délit meurtrier routier, quoi, parce que
si c'est avec l'alcool, c'est un délit, je crois.
Et ben, alcool et drogue.
Ouais. Oui, alors voilà, la drogue, c'est la grande découverte actuellement. Moi, dans ma famille, la sœur de mon épouse, de Chantal, a été tuée. À 25, elle était sur une moto, elle faisait entre 25 et 30 km heure. Elle a été tuée par un promoteur immobilier de Théoule. Si vous avez des gens en passé, vous pourrez voir un mec et un gars très bien qui a pris la fuite, qui l'a renversé, qui a pris la fuite, qui s'est arrêté, qui a repris la fuite et qui est rentré chez lui pour boire à nouveau du whisky. Les flics l'ont serré tout de suite parce qu'il y avait des caméras de vidéo, et puis ils ont dit, tiens, un comportement pareil avec une énorme voiture, c'est un gars qui nous avait dit, mais la corniche à la sortie de Mandelieu, c'est la mienne de corniche. Donc il faisait n'importe quoi. Il a été condamné à 4 ou 5 ans, je ne me souviens plus de prison. C'était le record. C'était il y a 10 ans à peu près, 9 ans.
De prison ferme ?
De prison ferme. Et il a fait 27 mois. Alors là, personnellement, puisque j'ai fait partie du procès, il y a quelque chose qui m'a gêné. Nous étions satisfaits, y compris dans sa famille, puisqu'ils sont venus me voir à la fin. J'ai cru qu'ils allaient me casser la gueule parce que j'étais intervenu. Mais pas du tout. Ils m'ont dit qu'ils méritaient d'aller en prison. Ce que je trouve très désagréable, c'est que quand un gars est condamné, on va rester au chiffre inférieur, 4 ans, il est sorti au bout de 27 mois. Ouais. J'aurais préféré qu'ils le condamnent à 28 mois et qu'ils disent, voilà, il s'est bien tenu en prison. Mais là, trop, c'est trop, quoi.
Oui, mais pas le mal dire en prison, enfin... Ça peut pas être autrement, quoi.
Non, il aura certainement 2 ans avec sursis, et puis voilà. Comme 90% de ceux qui ont des accidents.
Des accidents
mortels.
Je pense qu'aujourd'hui, nous, c'était le. Donc, c'est un cas qui s'est avéré il y a 9 ans, 9-10 ans. C'était la première fois qu'un conducteur alcoolisé.
Donc, c'est parce que je dis cas exceptionnel. Donc.
Cas exceptionnel. Voilà. Mais je crois savoir que depuis, il y en a eu pas mal.
Je finis sur une petite note drôle, même. J'ai lu ce matin quelqu'un qui disait, parce que vous savez qu'ils ont enlevé la statue de Palma de la musée Grévin.
Ah bon ?
Oui, il l'a enlevé. Et le gars, il dit, si on retirait les statues de tous les cocaïnomanes du musée Grévin, il ne resterait plus que Louis de Funès.
Très bien.
Allez, autre sujet, l'appel à bloquer le pays. On s'en approche. C'est le 7 mars prochain. Appel lancé par les syndicats. Donc après des manifs conséquentes, hein, il y a eu comme un petit relâchement le samedi. Alors, j'ai plus la date exacte, mais vous savez, ce samedi où on pensait, en tout cas les syndicats avaient tablé sur plusieurs millions de manifestants, vu que c'était samedi. Bon, on a senti un petit essoufflement, alors peut-être dû aux vacances. Bon, pensez-vous que le 7 va marquer un tournant dans cette lutte contre la réforme de la retraite ? Ah, bonne question. Tournant, pas tournant ?
L'expression, moi, bloquer un pays, ça me semble extrêmement prétentieux. Parce que qu'est-ce qui nous bloque vraiment dans ces conflits ? Qu'est-ce qui nous a bloqué récemment ? Qui nous a empêché de vivre complètement ?
C'était l'essence.
Exactement. Je suis entendu Mélenchon qui disait aux commerçants, tirez votre rideau. Mais de quoi tu te mêles, de PR, quoi. Hein,
Justement, j'ai un petit bout de Jean-Luc Mélenchon. Alors je vous cache pas, j'ai fait un petit détournement avec Coluche, j'en ai profité pour m'amuser un petit peu. Voilà, je vais vous faire écouter ça. Donc Jean-Luc Mélenchon qui sur scène donc appelle à la grève, comme disait Coluche, avec un discours un peu compliqué. Alors, je sais pas si j'ai tout compris, mais en tout cas écoutez.
Partout parler du 7 mars. À vos enfants, à vos petits-enfants, à vos voisins, à vos parents, jusqu'à ce qu'ils disent « Mais ça va, on a compris, c'est dimanche, arrête !» Non, j'arrête pas, il faut que je vous parle du 7 mars. Faites comme ça, parce que c'est comme ça que la vague devient énorme, qu'elle occupe tout le pays, que tout le monde ne parle que de ça, et commence à réfléchir et à se demander par quel bout ils vont prendre leur avenir. Mes amis, le réel est en lui-même une lutte des choses les unes avec les autres pour aller d'un point à un autre. Nos vies ne peuvent pas être autre chose que le résultat de notre prise de conscience sur ce qu'elle est pour tâcher de la maîtriser.
Je vais vous rassurer tout de suite, les autres ne comprennent pas non plus. Mais au moins, ça fait plaisir de savoir qu'on est compris par des mecs qui comprennent des trucs qu'on ne comprend pas.
Citoyens,
camarades, les mecs, là,
le pouvoir du peuple sur le peuple, parce qu'il ne peut pas avoir d'autre maître. Allez, au 7 mars.
Il était dans une fac de philo ou
ouais, moi, j'ai arrêté philo il y a 40 ans.
J'ai bien écouté. J'ai mis sur pause, je suis revenu en arrière, j'ai remis le truc. Je m'excuse, j'ai rien compris. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose, mais bon.
Non. En moi, tout cas. On m'incite à faire défiler mes petits-enfants dans la rue. Non. On ira peut-être se promener sur des sentiers, mais les enfants, les petits-enfants, non, mais arrêtez.
Alors,
non,
justement, c'est la CGT qui a mis un kit en place dans les Hautes-Alpes, je ne sais pas si vous avez suivi ça, pour la dernière manifestation le samedi, c'était un kit spécial enfants. Donc, est-ce que vous trouvez que c'est plutôt une bonne chose de montrer aux enfants donc un kit spécial pour aller défiler? Moi, j'ai trouvé ça un petit peu décalé. Alors, c'est bien d'expliquer aux enfants ce qui se passe, ouais. Mais de là à leur filer un kit pour qu'ils aillent défiler.
Moi, j'ai connu en 68, mon âge me permet de dire que on apprenait l'international par prudence pour certains. Moi, j'ai connu le premier couplet en me disant, on ne sait jamais, ils vont peut-être me trancher la tête. Donc voilà. Mais apprendre en 68 l'international, à mon avis, d'ailleurs, c'est un petit peu passé ce chant, non ?
Où on n'en entend plus beaucoup parler. Ouais. Hein. Ah,
moi, je dirais à mes petits-enfants, vous allez prendre votre retraite en 2070, il va y avoir encore 14 réformes.
Vous allez tenter
de défiler. Donc, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est pas ce que vous allez vivre.
Il y aura 3 guerres.
De toute façon, faut hélas, faire des réformes, réformes sur réformes. On n'a pas fini. Mais quand on entend des gens dire qu'il faut revenir à 60 ans, ils sont d'où ces gens ? Ils arrivent de quel pays ? De quelle zone ? De Mars ou autre ?
Mais oui, mais pas, parce que toi, tu as travaillé jusqu'à tard. Donc, tu as vécu... tu as travaillé jusqu'à quel âge ?
64 ans. Ouais. Et je ne me suis pas trop posé le problème. Et j'étais plutôt en forme. Voilà, faut pas exagérer non plus quand même. Hein. J'avais des copains d'ailleurs. On va citer un truc. J'aime bien la SNCF. J'ai un copain qui était... au dépôt d'Achères, qui était conducteur de train. D'ailleurs, beaucoup d'embriançons vont savoir de qui je parle, qui un jour m'a dit, Jean-Paul, je lui ai dit, mais pourquoi tu m'as demandé de sortir? Parce que j'ai pas 48 ans et je suis déjà à la retraite. Alors, c'est vrai qu'il y avait eu un licenciement de 1200 personnes. Il faisait partie du wagon, c'est le cas de le dire.
Donc il était en pré-retraite à 48 ans.
Il allait avoir 48 ans quelques jours plus tard. Je l'ai vécu et il m'a donné le montant de sa retraite. Ah là là, j'aimerais bien avoir aujourd'hui la moitié de ce qu'il a eu il y a... voilà. C'était en 1994, beaucoup d'embriançons vont se souvenir de...
Donc, oui, c'était en francs à l'époque.
Je pense, oui, c'était en francs.
Oui, mais même lui, il me dit, j'ose dire à personne que je fais partie de la SNCF.
Mais je pense que...
Il n'y avait aucune fierté de sa part. Hein.
Je pense que le problème aujourd'hui de cette retraite, enfin de cette réforme des retraites, cette réforme des retraites, c'est la pénibilité pour certains.
Ah voilà. Je pense que c'est ça le problème. Mais je vais te dire autre chose. J'aime bien parler des gens que je connais. Ma belle-mère était à la Banque de France.
Et mon cousin.
Ma belle-mère était à la Banque de France. Elle était cadre et elle m'a fait rencontrer des gens qui se battaient pour avoir le 17e mois. Vous entendez bien, le 17e mois. Je me souviens avoir pris un crayon et montré à ce monsieur. Il m'a dit, c'est ça, on se bat. C'était il y a 25-30 ans.
17e mois, c'est pas mal. Je savais que déjà, je savais déjà qu'au niveau de la sécurité sociale, il y avait pas mal de mois en plus. Mais,
la banque a pas mal de mois, 14, hein, je crois.
Ça a changé
13, mais maintenant, comme dans toutes les grandes entreprises, il y a participation, intéressement.
Ouais, ça fait 14.
Ils peuvent rajouter 2 mois, quoi.
Bon, soyons clairs, autour de cette table, on est 5, il y a 4 retraités. Hein, donc le discours, forcément, n'est pas très représentatif de la réalité.
Oui. C'est pour ça que je disais, tu as arrêté à 64, t'as arrêté à quel âge ?
62, et moi je dis pourquoi j'ai arrêté, j'ai dit place aux jeunes, voilà.
D'accord.
65.
Ouais, on est quand même sur une...
6, 60 et demi.
60 et demi,
d'accord. Carrière longue.
Ouais.
J'ai pu en bénéficier. Mais à l'époque, on commençait à travailler à 16-17 ans.
Oui, on est d'accord.
Aujourd'hui, ils font des études jusqu'à 25 ans.
Ouais, mais enfin, il y a beaucoup de gens qui ne font pas d'études et qui commencent aussi à 16 ans. Hein,
Oui, bien sûr.
Apprentissage, voilà, ils commencent à 16 ans. Moi,
L'alternance et tout, l'apprentissage, c'est une bonne chose.
Non, mais il y a des tas de choses à régler, bien sûr, mais réduire un petit peu les inégalités, hein, Liberté, égalité, ouais non, l'égalité pas trop quand même. Je parle pas de la pénibilité, ça c'est un problème évidemment plus qu'important.
Par contre, il faut quand même savoir que dans la fonction publique, quand tu prends des grades ou des échelons, des fois c'est 1,50€ par mois. Hein. Ouais. Et donc il y a beaucoup de gens qui font carrière dans les mairies de ça, qui ont des salaires qui sont vraiment très bas. Hein.
Oui.
Il y en a qui, au bout de 40 ans de carrière, touchent 1,500€ par mois. Quoi. Donc il y a des choses qu'il faut dire parce que dès qu'on est en fonction publique, oh là là, on a des avantages, on ne travaille pas et tout. Non. Quand on est dedans, on voit comment ça se passe, c'est faux.
Tu as raison.
Ah bah il y a de l'inégalité dans l'inégalité. La fonction publique, ils sont pas tous
à la même enseigne.
Logés à la même enseigne, hein, c'est clair. Hein.
Alors cette image peu valorisante.
Alors, attends. Excuse-moi.
Vas-y.
Par rapport à Mélenchon. Moi, ce qui m'a fait plaisir.
C'est Philippe Martinez qui a dit qu'il essayait de s'approprier.
Celui de la Berger.
Oui.
Qu'on a l'impression qu'il se réveille en disant bon, mais il faut. Faites-le taire, quoi, parce qu'il est en train de nous mettre le combat à barre terre.
Il disait qu'il pense qu'il est en train de s'approprier le mouvement social pour reléguer les syndicats au second plan.
Oui.
C'est pour ça qu'au bout d'un moment. Et puisqu'on est avec notre ami Jean-Luc, on va y rester avec les députés LFI. Comme je disais, cette image peu valorisante, hein, en tenant à sortir des débats vendredi dernier, le fameux chant des Gilets jaunes, que j'ai noté, il est minuit, on est vendredi soir, enfin on est samedi matin, il est minuit un petit peu passé, et voilà ce qu'on entendait dans les bancs de l'Assemblée. Voilà. Alors, que penser de tout ça ? Peut-on dire que la fonction politique en a pris un coup dans les gencives depuis quelques années ?
Faut pas exagérer non plus. C'est pas parce que des petits. Ils ont quel âge, les petits garçons là ?
Oh, il y a tout, hein. Mais non, c'est les députés.
Ah, c'est des députés. Excusez-moi, j'ai pas tout bien compris. J'ai cru que c'était un monôme du bac.
Non. Ce sont les députés qui ont entonné le chant des Gilets jaunes, vous en souvenez.
Ouais.
On est là. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que. La fonction politique, elle en a pris un coup. Enfin, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez.
C'est pas parce qu'il y a des clowns qui chantent en sortant de l'Assemblée que toute la fonction a pris un coup. Ça, c'est de la marginalité. Enfin, ils sont ridicules, ces gens-là.
Ah oui.
Je me suis souvent dit, en les regardant, mais soit ils font exprès, c'est une espèce de démarche, hein, de se marginaliser, ou alors, je pense que c'est plutôt ça, ils font pas exprès. Quoi.
Non, je crois que c'est naturel pour certains. Ce que j'ai trouvé amusant, c'est qu'ils ont déposé 13 000 ou 14 000, je ne sais pas, je ne me souviens plus du chiffre.
D'amendements.
Mais comme ça s'arrêtait vendredi à minuit, vous avez remarqué que dans les jours qui précédaient, ils avaient mis l'amendement 500 amendements. Et du coup, on n'a pas pu accéder. Ils n'ont pas pu accéder, ces gens sérieux qui chantent, là, enfin, entre autres, au fameux article 7 qui conditionnait l'âge de départ à la retraite. La fameuse. Ils se sont fait avoir eux-mêmes. Mais je pense que dans certains lieux politiques, on a dû dire laisse-les déposer encore 1000 amendements. Mais oui, c'est parfait. Ben voilà, ils se sont fait coincer tout seuls.
Gilles, la fonction politique.
Elle a pris un coup, mais grave. Hein,
parce que toi, tu y es.
Oui, mais
Alors on te croise pas dans la rue, on te croise pas dans la rue et tu reçois pas des cailloux quand même.
Rassure-moi. Pourquoi on a pris un coup? Parce qu'effectivement, là il y avait une révolte un peu, il y a des gens qui étaient mécontents dans le peuple français. Et donc nous, tout le monde est allé aux urnes. Et ces gens-là, ils ont été élus.
Oui.
Donc ils ont été élus, ces gens-là. Et donc pas simplement sur leur trombine ou quoi que ce soit, ils ont été élus. Et aujourd'hui, alors effectivement, à l'Assemblée, c'est la poire d'Empoigne, mais il ne faut pas oublier que ces gens-là ont été élus.
Oui.
Donc le système en prend un coup, et oui, ça choque.
Non, mais rappelons-nous quand même, l'ambiance des élections, c'était sorti Covid, il y a des gens qui ont été élus avec 40% de...
Reprenons les tout premiers qui sont arrivés, qui n'étaient pas vraiment des politiques, c'est En Marche, la première élection de Emmanuel Macron, avec En Marche, où on a vu débarquer beaucoup de personnes qui n'étaient pas de la politique, les professionnels de la politique. Donc ça a commencé il y a plusieurs années en arrière.
Le monde civil, oui.
Qui ont profité de la personnalité de Macron.
Exactement. Et donc on est rentré dans ce système où on s'est dit, après tout, pourquoi voter que pour des politiques? On va voter pour d'autres personnes. Et on en est là aujourd'hui. Et notamment, alors LFI, c'est vrai que ça cristallise un petit peu tout ça, parce qu'on a le sentiment qu'on a vraiment un melting pot de tout ce qui se fait en France, visiblement.
Non, mais c'est bien, en même temps, on avait Sandrine Rousseau, c'est comme ça qu'elle s'appelle, la dame, Sandrine Rousseau.
Sardine Rousseau, s'il te plaît.
Voilà. Et puis on a, ces gens, non, mais ça met un peu d'ambiance, un peu trop parfois.
Oui, c'est vrai que ça met un petit peu trop d'ambiance.
Moi, je suis surpris parce que, regarde, les gens, par exemple Mélenchon, qui a été élu député européen, en étant contre l'Europe. Je ne sais pas quelle est la démarche, quand tu es contre l'Europe, de dire « je vais siéger au Parlement ».
C'est pour, justement, être au Parlement et dire « je suis contre
une opposition ».
Oui, mais tu peux pas être contre une institution et...
Et prendre tous les avantages, tu veux dire.
Oui, ouais, et aller à l'intérieur de cette institution pour pas la faire fonctionner. De la même manière au Parlement. Si tu vas au Parlement, c'est pour débattre, c'est un lieu de débat quand même. Alors, ils reprochent qu'on donne pas la parole. Quand il y a la parole, c'est le chahut. Ça me paraît compliqué d'être à la fois pour, dedans, contre, et puis finalement, c'est une bonne place. Donc ils sont un peu comme les autres.
Évidemment que c'est une bonne place.
Je ne sais pas comment le décoder.
Pour Jean-Luc Mélenchon, c'est une bonne place depuis le début de sa carrière politique.
Je n'ai jamais été choqué, parce que ça, c'est depuis la nuit des temps qu'on tape sur le pupitre pour
interpeller.
On a le droit au chahut.
Il y avait peut-être un autre langage à l'époque.
Voilà, mais je veux dire, on a le droit au chahut, à une forme de manifestation contre l'institution, mais pas la bloquer. Je veux dire, à partir du moment où on la bloque, c'est quand même un acte délibéré. Tu dis pas, Gilles, tu dis, tu avais raison. C'est-à-dire, face à tes élus, tu es allé pour les représenter. Si les représenter, c'est bloquer le Parlement, je ne comprends pas. Tu peux pas être dans l'institution, la bloquer systématiquement. C'est ça qui me gêne, quoi. Mais le chahut, ça me va, le chahut, ça a toujours existé, tant mieux. Je veux dire que ce soit pas complètement aseptisé. C'est le blocage de l'institution.
Mais c'est un peu la même chose lorsque tu parles avec certains dans la rue. Si tu n'es pas d'accord avec eux, tu te fais traiter de facho tout de suite. Pour une histoire de banane ou n'importe quoi. Je dis les bananes, je m'en fous des bananes. Mais c'est grave parce que le mot facho arrive très très vite. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit à la parole en somme. Tu ne peux pas débattre. Je trouve ça très désagréable.
Avant, il devait y avoir sûrement des règlements de compte dans l'hémicycle. Mais tu n'avais pas la presse filmée qui était toujours là. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu dis un mot de travers et ça y est, une heure après, toute la France est au courant. Donc tout ça, ça a changé le comportement. Et les gens, je pense, se respectaient plus.
Oui.
Dans la fonction d'élu, ils se respectaient plus. Aujourd'hui... ils sont prêts à tout, il y a des attaques personnelles c'est ce qui choque aujourd'hui.
Enfin, on a vu des députés employer des mots injurieux vis-à-vis d'un ministre ou autre, ministre ou tartempion, on s'en balance, mais au sein de l'Assemblée nationale, des injures.
Oui, alors injures, et puis on peut parler de l'ensemble général, c'est-à-dire on sent que ce n'est plus un lieu, j'allais dire, un au lieu de la République, on a l'impression que maintenant on peut venir un petit peu comme on veut, et on le voit notamment dans des tenues qui sont pas vraiment appropriées à ce qui se passe donc dans cet hémicycle, des tenues quelquefois où on voit des gens arriver en short et en basket. De là à venir en costard cravate, il y a une limite, mais enfin je pense que voilà, il y a une limite. Alors, c'est pour ça que je pense que le métier de politique est devenu quand même très bizarre, quoi.
On a de plus en plus de mal au niveau de nos municipalités, lorsqu'on veut créer une liste, on a de plus en plus de mal à constituer une liste aujourd'hui.
Et tu crois que c'est dû à ça aussi ?
Non, ben, des gens, ils se désintéressent à tout ça.
C'est la même démarche, ouais.
Et donc voilà, il y a ça. Je lisais une statistique il n'y a pas très longtemps, il y a une trentaine d'années. Chez les jeunes, c'est-à-dire des gens qui avaient entre 20 et 40 ans, il y avait à peu près 25% d'élus de la République. Mmh. Aujourd'hui, cette proportion-là de ces gens qu'on peut estimer jeunes par rapport à nous qui sommes retraités, ils sont passés à 12%. Et par contre, au-delà de 65 ans, il y a beaucoup plus d'élus politiques dans les conseils municipaux un peu partout. Aujourd'hui, personne s'investit dans la politique comme avant. Et donc, ou alors ils s'investissent et puis deux ans après ils font partie d'un autre parti parce qu'il n'y a plus de. Enfin, vous allez évoquer tout à l'heure le problème des leaders chez les Républicains.
Oui, et d'ailleurs,
il y a plein de partis qui disparaissent aujourd'hui.
Tu le vois au sein des Hautes-Alpes.
Ce sera d'ailleurs le dernier sujet. On va...
Plein de gens qui démissionnent sans arrêt. Les préfets n'arrêtent pas de dire ah tiens, j'ai reçu la démission d'un tel, parce que les gens n'en peuvent plus quand vous faites votre boulot. Je trouve qu'il manque de sagesse des électeurs. Hein,
dernier, vis-à-vis de vous. Dernier sujet, justement, et c'est bien de le lancer et de faire la transition. Gilles, on sait qu'effectivement, le PS est un parti en voie d'extinction hein, depuis quelques années. Est-ce qu'on peut imaginer le même sort pour les Républicains hein, qui passent leur temps à se déchirer? On l'a vu, hein, la première fois a été vraiment importante. Hein, c'était après les résultats catastrophiques de Valérie Pécresse hein, lors de la présidentielle. Il y a eu ensuite une seconde fois qui est arrivée assez vite, hein, l'élection d'Éric Ciotti à la tête du parti qui n'a pas fait plaisir à tout le monde. Et enfin une troisième fois avec l'éviction du numéro 2 du parti, Aurélien Pradier, là c'était ce week-end, c'était la semaine dernière, démis de ses fonctions justement par Éric Ciotti. Est-ce qu'on peut voir aussi aujourd'hui les Républicains partir dans la même spirale tragique que le Parti Socialiste ?
Ça n'a pas de rapport, mais le fait que la droite ait explosé comme ça, c'est Macron.
Oui. Disons que
Macron a moins fait exploser le PS.
Ils se sont bien aidés de l'intérieur et Macron a profité, du système, comme pour le PS.
Une fois à gauche, et là, il tape un peu de l'autre côté, mais voilà, le résultat est là. En même temps, c'est dur à assumer. Pécresse, Ciotti et Pradier, ça fait beaucoup pour un petit parti.
Hein, Gilles, tu penses que ça va être compliqué pour les Républicains ?
Et ce qui se passe, c'est que j'estimais qu'avant, il y avait des leaders politiques. Et donc, le leader politique, c'était le patron. Et il pouvait faire 20 ans, 30 ans au sein de son parti. Et quoi qu'il arrive, que ça plaise ou pas, c'était le patron. On le respectait. Aujourd'hui, tout le monde veut la place. Donc, je te suis dans cette démarche. Mais si dans 2-3 ans, je peux te bouffer la place, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai cette impression-là.
Tu parles de la commune de la Salle des Alpes.
On est en
général.
Plein dedans.
Oui, mais ça redescend.
Mais tu peux ramener ça au local, il n'y a aucun problème.
Mais
on est en plein dedans.
Voilà.
Donc avant, voilà, il y avait un peu ce respect, il y avait cette distance. Et voilà,
mais il y avait des vrais leaders politiques.
Du respect.
On pourrait citer Jacques Chirac, par exemple. Avant d'être président, a été un leader, un vrai leader. Et François Mitterrand.
Georges Marchais.
Voilà, oui.
Je veux dire, voilà.
Et même Lionel Jospin.
Moi, je pense qu'à gauche.
Ah oui, non, Ségolène Royal, alors ton voilà.
Ah Ségolène.
À gauche, il y a Ségolène et à droite, il y a Morano. Je vois pas pourquoi il cherche midi à 14h. Mais... Hein, t'es d'accord?
Et non.
Le retour de Ségolène, on a fait un petit parti ici pour le retour
non,
de Ségolène.
Non, mais Lionel Jospin, c'était quand même une figure du Parti Socialiste. Qu'on en dise, il est resté longtemps.
Le fameux éléphant, et puis.
Et c'est vrai que.
Il s'est fait battre en 2002, si je me souviens bien, sur un excellent bilan.
C'est peut-être un retour de manivelle que l'on se prend, hein, parce qu'on en a eu marre pendant quelques temps d'avoir toujours les mêmes.
Les éléphants,
On en dit, hein. On a ras-le-bol d'avoir les mêmes. Donc aujourd'hui, eh ben, il y a les nouveaux qui arrivent et on se rend compte que bah, les nouveaux ont visiblement pas les épaules pour prendre la place des plus vieux. Hein. Merci Gilles Perly d'avoir été avec nous. Merci Philippe, Jean-Paul, Rémi.
Merci.
Et au mois prochain. Passez une belle journée.